Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Maintenant, place à l'actualité. Les scientifiques des centres de recherche argentins INTA et CONICET ont réussi à neutraliser le virus qui cause le coronavirus avec des nano-anticorps HHV dérivés du lama et des anticorps IgY dérivés du jaune d'œuf de poule, a-t-on officiellement rapporté lundi. Le développement scientifique a été présenté par les ministres de l'Agriculture et des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Luis Basterra et Roberto Salvarez, ainsi que par la présidente de l'INTA, Susana Mirasu. Basterra a déclaré que cette réalisation a la qualité d'une annonce internationale en termes de réussite scientifique et nous place à l'avant-garde de ce que sont les différentes alternatives pour la lutte contre le Covid-19. Comme expliqué, les essais de neutralisation menés avec des pseudo-virus, tout comme avec le virus sauvage, ont confirmé que ces molécules inhibent l'infection virale causée par le SARS-CoV-2, ce qui a permis de mettre au point des traitements innovants contre la maladie du Covid-19, complémentaires des vaccins et autres méthodes disponibles. Il s'agit de deux stratégies de traitement préventif et thérapeutique des patients affectés par les nano-anticorps de Covid-19, et les anticorps IgY obtenus peuvent être utilisés comme traitement préventif et thérapeutique, bien qu'ils soient également des outils utiles pour le développement de méthodes d'immunodiagnostic, entre autres applications. Les 22e rencontres du cinéma sud-américain ont eu lieu du 6 au 11 octobre à Marseille, au cinéma Les Variétés et au Théâtre de l'Œuvre. L'association Solidarité Provence-Amérique du Sud a tenu à organiser le festival dans un format réduit pour continuer à offrir au public marseillais des films latino-américains tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire face à la crise du Covid-19. L'art comme rempart contre l'isolement, la peur, l'incertitude. C'est un acte de joie et de création, un acte de résistance culturelle, disent les organisateurs. Le thème de cette année est « Amour et empathie » pour célébrer l'amour des réalisateurs pour le cinéma qu'ils continuent de pratiquer, en dépit des difficultés financières et politiques et l'empathie profonde qu'ils éprouvent pour la réalité latino-américaine et qui leur inspire des histoires poétiques, bouleversantes, humaines. Pour en parler, nous avons contacté Léonore Arispe, présidente de l'ASPAS et coordinatrice des rencontres du cinéma sud-américain.
Soy Léonore Arispe, soy la presidenta de la Asociación Solidarité Provence Amérique du Sud et coordinatrice des rencontres cinéma sud-américain. Nous avons commencé il y a 22 ans, sans interruption jusqu'il y a quelques jours, que nous avons fait les 22e rencontre. Notre but, c'était renforcer le processus de démocratie qui s'est ouvert à cette époque-là, en Amérique latine et surtout en Argentine. Donc, il fallait montrer la création artistique, la capacité de l'Amérique latine de s'en sortir des dictatures sanglantes Et malheureusement, il y a des choses qui sont revenues encore en quelques pays, comme au Brésil, mais que la ligne en général, ce sont des processus démocratiques avec beaucoup de défauts, mais plus positifs. Donc, notre invention, on dirait notre objectif de faire du cinéma un instrument culturel de pensée, d'émotion, de poésie et aussi de réflexion pour la construction d'une nouvelle étape. En ce moment, avec la pandémie, encore se renforce cet objectif. Donc, notre programmation cette année a été un peu réduite à cause de la difficulté de trouver des salles et de disponibilité des salles, mais on l'a fait dans les principaux cinémas de Marseille et avec une programmation consacrée au Brésil, au Chili, à l'Argentine, à Cuba. Ce sont sept pays qui ont été représentés. Sur la programmation argentine, je mets en relief le film documentaire de Marina Rubino, Yvonne. C'était l'histoire d'une sœur religieuse qui a été compagnère, copine de deux sœurs assassinées en Argentine. Elle témoigne, intervient, continue son combat avec le soutien aux paysans du nord-est de l'Argentine, avec les ligues agraires et tout ça. Et le principal témoignage pour la condamnation de la junta militaire assassin des deux sœurs religieuses. Alors, c'était une soirée émouvante. Le public ne bougeait pas de son siège et on a pu débattre un petit peu avec Mons Ross, qui était la productrice. Il y avait une nièce de Yvonne dans la salle. C'était très émouvant.
Partageons la bande annonce du film Yvonne.
Le gouvernement miente. Le gouvernement miente parce que le gouvernement sait où est.
Somos jueces del Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal y en el día de hoy vamos a hacer audiencia que usted ha sido convocada, citada como testigo.
J'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale et j'ai passé 4 ans dans une cave. C'était en l'année 55, je crois. Que je suis arrivée ici. Mais je ne m'en rappelle plus.
Señora, por favor, le vamos a exhibir una foto a ver si usted reconoce a las personas que están en esa
ah,
foto.
Ah, bueno, sí, sí. Oh là là. Sí, era Katy y Leoni, las dos hermanas nuestras.
Je me rappelle d'Assis. Je rappelle que les maires de la place de Mai. Ils les accompagnaient jusque leur maison et tout ça. Alors moi, ça ne me plaisait pas. Ça. Moi, j'ai beaucoup d'intuition. Ma préoccupation comme chrétienne, c'est justement que tous les enfants aient le droit d'étudier. Parce que c'est obituellement énorme. Moi, ça n'existait pas, ça. Il y a toujours des survivants. Mais parce qu'il faut toujours avoir un témoin dans l'histoire.
J'ai bien connu Yvonne Piron pendant notre exil partagé à Paris, fuyant la dictature argentine à la fin des années 70. Et depuis, nous avons gardé un contact permanent en Europe, au Nicaragua, en Argentine, avec le retour de la démocratie. tant à Buenos Aires comme dans le fin fond de la brousse à Misiones, où elle s'est installée et où elle repose pour l'éternité depuis son départ le 28 septembre 2017, à l'âge de 89 ans. Yvonne fut décorée de la Légion d'honneur en 2005. Deux livres lui sont consacrés. Missionnaire sous la dictature de David Borstein aux éditions du Seuil, qui parle de la vie extraordinaire de cette femme qui entre en religion à l'âge de 17 ans. Sa vie de missionnaire l'a conduite en Argentine en 1955, où elle travaille comme infirmière dans les bidonvilles de Buenos Aires, avec les Indiens Mapuches en Patagonie et les planteurs de tabac du nord du pays, jusqu'à l'enlèvement des sœurs Alice Aumont et Léonie Duquet en décembre 1977. L'autre livre, Yvonne Pierron, Su lugar en el mundo, Yvonne Pierron, Sa place dans le monde, dont je suis l'auteur, a été publié il y a 2 ans en espagnol par l'Université nationale de Misiones en Argentine. On y retrouve sa propre voix à partir de conversations que nous avions enregistrées 10 ans auparavant, de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui l'ont connue, et des photos de tout son parcours, depuis sa naissance en Alsace à ses derniers jours à Pueblo Ilia et Posadas. Le livre a accompagné le lancement du documentaire Yvonne Pierron de Marina Rubino, dont la musique accompagne cette rubrique. À l'occasion de la sortie simultanée du livre et du long métrage, le Sénat argentin a tenu à honorer, le 14 mars 2019, la mémoire de sœur Yvonne Pierron. À cette occasion, Jérôme Guillot, directeur du Trait d'Union, m'a interviewé. Voici mon témoignage.
Bonjour Eric. Un petit mot sur cette émouvante cérémonie pour Yvonne Pierron, où tu as participé d'une manière fondamentale.
En effet, Yvonne nous regroupe encore, nous réunit, certains Français qui l'avons connue, elle qui était française, réunit beaucoup d'habitants de la province de Misiones où elle a longtemps vécu et où elle est enterrée actuellement à Puerto Ilia. Le Sénat argentin a bien voulu nous accueillir dans sa maison pour cet hommage à Yvonne et pour présenter d'un côté, oui, mon livre qui s'appelle Yvonne Pierron, Su lugar en el mundo, Sa place dans le monde. Et aussi un documentaire qui s'appelle Yvonne et qui va être présenté au cinéma Gaumont, ici à Buenos Aires, au Congrès, à partir du 28 mars. Donc ces deux événements qui rappellent un peu qui a été Yvonne, sa trajectoire, les recoins du monde qu'elle a visités et les gens qu'elle a connus, dans une date qui est très proche du 8e, donc dans les activités que le Sénat fait pour la femme.
Et que représente Yvonne pour la province de Misiones?
Pour Misiones, c'est tout, c'est une grande dame, non, qui mesurait 1,50 m. C'est l'endroit qu'elle a choisi pour vivre ses dernières longues années. Après son retour en Argentine en 84, très peu de temps après, elle est allée là-bas et elle a laissé une marque vraiment impressionnante, non, parce que non seulement elle a travaillé avec les indigènes de la région, les organisations des droits de l'homme de Posadas et de Misiones, mais en plus, elle s'est installée dans un petit patelin au milieu de la brousse et de la terre rouge de Misiones, qui s'appelle Pueblo Ilia. Et là, elle a fondé une école, elle a fondé un foyer pour les jeunes filles et les garçons qui parfois vivaient à 20 km de l'école et qui ne pouvaient pas faire l'aller-retour tous les jours, donc ils restaient du lundi au vendredi à côté de l'école pour vivre. Donc c'est une école qui d'ailleurs actuellement porte son nom. C'est ça, l'empreinte qu'elle a laissée est très importante, fondamentale et bon, tout le monde l'aime à Misiones.
Et aujourd'hui, on a parlé d'Yvonne et bien entendu, on ne peut pas parler de Léonie Duquet et de Alice Aumont, c'est impossible.
En effet, moi je l'ai connue à partir de l'enlèvement de Léonie Duquet et Alice Aumont, quand elle est arrivée en 78 en France, après leur enlèvement en décembre 77, qu'elle venait avec cette tragédie, non, parce que c'était vraiment une tragédie que la dictature de Videla et compagnie en décembre 77 enlève et tue et fasse disparaître 2 religieuses françaises. Donc parler d'Yvonne, c'est évidemment rendre aussi hommage à Léonie et à Alice Aumont.
Merci Eric, félicitations encore.
Mais revenons aux 22e rencontres du cinéma sud-américain et à Leonor Arispe qui nous fournit plus de détails sur les films qui ont été présentés à Marseille du 6 au 11 octobre.
Nous avons conclu notre festival avec les cinémas cubains Écume des jours de Fernando Tomasi. C'était très applaudi. Nous avons eu des résultats des jurys. Il a gagné le film chilien Perro Bomba de Juan Cáceres. Et c'est un film sur la tragédie moderne que signifie l'immigration haïtienne au Chili, le racisme. Et pour ça, le film brésilien sur l'esclavage actuel au Brésil a gagné la mention spéciale. Une série de courts-métrages, des autres films, ils ont été en partenariat avec le Short Mexique, le grand festival international au Mexique. Nous avons le plaisir d'annoncer que le court-métrage La Llorona, la pleureuse, a gagné le prix du jury pour sa qualité, sa poésie et la mémoire. La mémoire, la solidarité, ils ont été présents dans toute la vie de notre festival et continuera à l'être. Ça sera pour l'année prochaine. Déjà, nous avons presque une sélection et nous espérons que les conditions sanitaires vont nous permettre de le réaliser. Pourquoi on l'a fait même en situation difficile? Parce qu'il fallait montrer le courage, notre courage aussi, de la résistance aux difficultés, de savoir trouver des solutions pour pouvoir maintenir vivant les cinémas latino-américains. Les cinémas qui nous touchent directement et qui servent énormément comme laboratoire d'expérience pour le monde entier. En spécial, une satisfaction pour les changements qu'il y a eu en Argentine. Espérons qu'en Bolivie soit pareil. Espérons que le Mexique puisse continuer à défendre la démocratie et la justice sociale comme bien de le faire avec beaucoup de difficultés, les nouveaux gouvernements mexicains. Enfin, nous mettons en relief aussi le fait qu'à Cuba, la pandémie a frappé les moins de tout le monde. Alors, je envoie un abrazo très fraternel et un remerciement à Eric qui a organisé ce reportage et me joint à un esprit d'optimisme, mais complètement avec la conscience qu'il faut faire beaucoup attention parce que malheureusement, les financements de la société actuelle vont pour des objectifs qui ne sont pas exactement ceux qui sont nécessaires. Par exemple, une honte que encore nous n'avons pas une solution pour le coronavirus.